Carrefour Banque et Assurance.
Quand vous me dites, la carte passe, invincible. Et oui, votre carte de crédit passe standard propose de nombreux avantages. Et en plus, profitez de 30 euros offerts en bon d'achat à la suite de sa première utilisation, au comptant ou à crédit. Et c'est jusqu'au 24 juin chez Carrefour Banque et Assurance.
Carrefour Banque et Assurance. Délai légal de rétractation de 14 jours, voire conditions en agence banque ou sur carrefour-banque.fr. Carrefour Banque, RCA Sévry, numéro 313-811-515, numéro Orias 07-031-939.
RMC, 9h midi, les grandes gueules.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Les GG, les grandes gueules sur RMC, RMC. On discute de la privatisation de la SNCF. Pourquoi ? Parce que c'est le président des Républicains, Éric Ciotti, lui-même, qui fait la proposition. Il l'a dit ce matin sur RMC et BFM TV devant Apolline de Malherbe. Est-ce qu'il a raison ou pas ? Alors, une équipe dit oui, Olivier, Antoine, Charles. Une équipe dit non, elle est toute seule dans son équipe, mais elle fait face, c'est Julie Martinez.
Elle rame, hein.
Et Pierre, et Pierre va en discuter avec nous. Pierre, bonjour, Pierre Duvar.
Oui, bonjour.
Alors, qu'est-ce que vous en dites, vous, Pierre ? Dans quelle équipe êtes-vous ? L'équipe qui privatise ou pas ?
Je suis dans le oui, mais.
Alors, expliquez-nous.
Oui, mais, alors, première question, c'est à quel prix les compagnies privées vont louer les voies ? Ou qui les entretient ? Ça, c'est déjà, on ne sait pas. Ça ne sera pas comme les autoroutes. Les autoroutes, les concessionnaires assurent l'entretien des routes. Là, on ne sait pas. On ne sait pas du tout ce que ça serait. Le deuxième point, c'est que moi, je serais pour oui, à condition que les appels d'offres se fassent par paquet. C'est-à-dire que celui qui gagne le Paris-Lille assure aussi Lille-Valenciennes, Lille-Calais, Lille-Boulogne. Et c'est dans le paquet. Si Lille-Calais ne l'intéresse plus, eh bien, il perd tout le paquet. Je prends l'exemple pour Toulon, d'accord, Toulon-Nice. Mais il prend le paquet Toulon-Brignoles, Toulon-Carqueiran, et là, il répond à un appel d'offres de cette manière-là.
Donc c'est imposer un cahier des charges, c'est tout à fait possible.
Mais
oui, Pierre a tout compris.
Un vrai cahier des charges,
oui,
pas,
bien
comme
sûr.
Celui, pas comme celui qu'on a imposé aux autoroutes au moment de la privatisation.
D'accord, vous ne voulez pas uniquement d'une SNCF privatisée qui ne s'occupe que du TGV, quoi, en fait, c'est ça ?
Ah ben voilà. Moi, celui qui prend Paris-Lyon, d'accord, mais il prend Lyon-Clermont-Ferrand, Lyon-Grenoble.
Quels seraient les avantages ?
Ah non, mais je ne vois pas les avantages. Personnellement, je ne vois pas les avantages. J'ai le souvenir, pour avoir habité la région, de l'économie mixte à Poitiers, où le privé l'a voulu. 5 ans après, le public a été obligé de le reprendre parce que c'était une catastrophe. Donc, le privé n'est pas mieux que le public, ou le public n'est pas pire ou pas mieux. Simplement, il faut que ce soit une concurrence libre et non faussée.
Alors, Pierre, Antoine,
il faut pas privatiser les gains et nationaliser les pertes.
Je pense que c'est très juste ce que vous dites, Pierre, sur la question des rails. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on n'en parle pas assez, mais c'est complètement public. C'est-à-dire que c'est RFF, c'est encore complètement public. Et on va vers des gros soucis d'infrastructure parce qu'il y a un déficit d'investissement sur l'entretien.
Oui.
Donc là, c'est le public qui gère les rails et tous les opérateurs, SNCF ou un opérateur privé, paye un péage à chaque fois qu'il passe sur le rail. C'est le même péage pour tout le monde. Ensuite, Pierre, vous avez entièrement raison, c'est que les régions aujourd'hui qui font des appels d'offres sur le service TER, le service régional, font des packages avec une ligne bien rentable et une ligne qui l'est moins, pour équilibrer. Donc ça, c'est déjà dans les tuyaux. En revanche, effectivement, il n'y a pas de mixte entre TER et TGV parce que ce sont deux modes de fonctionnement distincts. Mais moi, je suis persuadé que nous pouvons maintenir des petites lignes et nous les maintiendrons mieux, nous offrirons un meilleur service public en faisant appel à des opérateurs privés qui auront des coûts d'exploitation moindres que la SNCF. Et donc la puissance publique, la région Intel, en mettant 100 sur la table, aura plus de trains pour les petites lignes en confiant 100 à un opérateur privé que 100 à la SNCF. Et donc pour défendre le service public, je suis pour la privatisation.
Et comment tu t'assures qu'ils ne ferment pas ces petites lignes qui sont clés dans des territoires déjà fragilisés ?
Si vous permettez, justement, dans le package, s'il ferme la petite ligne, il perd tout le contrat.
Oui.
Il faut qu'il y ait un engagement au départ.
C'est exactement ça.
Et puis, s'il ferme la petite ligne, c'est qu'il ne veut pas de la grande non plus. Et quant au... Excusez-moi, mais quand vous parlez d'un meilleur service, j'utilise les compagnies aériennes low cost, je n'ai pas le même service que dans les grandes, c'est tout à fait vrai.
C'est pas le même prix.
Et si vous regardez... c'est pas le même prix. Eh ben, évidemment, mais vous êtes.
Oui, mais ça n'a rien à voir avec le privé public là. Ça, c'est parce que c'est une offre différente et on paye pas le même prix.
Oui, mais on aura une offre différente entre les
mais on a déjà. Mais pardon, la SNCF déjà nous propose une offre low cost avec le Ouigo. Donc en fait, encore une fois, en France, je sais qu'on est très attaché au public. C'est dans notre culture. On pense que l'État gère mieux que n'importe qui. Mais quand on regarde, on sort de France. Et quand on voit dans d'autres grands domaines qui sont gérés par le privé où c'est très bien géré, qu'il n'y a pas de problème.
Je réfute cet argument simpliste. Je ne suis ni pour le public ni pour le privé. Je suis simplement pour que les règles soient les mêmes pour tout le monde. Or, je me souviens, parce que je suis ancien, que quand une compagnie pétrolière obtenait une station sur une nouvelle ouverture de bretelles de périphérique, je pense à celle de Bagnolet, et c'est le pétrolier qui me l'a raconté, il signait un engagement de maintenir 5 ou 10 stations ouvertes en Bretagne.
Mais par exemple, prenez Air France. Air France aujourd'hui n'est plus une entreprise publique. Est-ce que autour de la table, il y en a quelqu'un qui préconiserait qu'on renationalise Air France? Non.
Alors Pierre, on va en parler justement avec Nicolas, si vous le permettez, qui est contrôleur SNCF, qui nous appelle du Var. Bonjour Nicolas.
Oui, bonjour les grandes gueules.
Alors,
comment allez-vous?
Bien, mon cher Nicolas, content de vous avoir avec nous pour étayer notre discussion. Vous êtes en tant que contrôleur SNCF dans le camp de la privatisation, oui ou non alors?
Alors, je vais vous expliquer. Déjà, pour commencer, déjà, je veux vous dire que la privatisation, elle est déjà là, messieurs. Vous y trompez pas, la privatisation est déjà là. Elle est déjà en route, il y a déjà bien, ça fait déjà quelques années que c'est en route, la privatisation. Il suffit de regarder en région PACA pour constater que la privatisation, elle va commencer dès l'année prochaine. Donc, la privatisation, elle est déjà là.
Ouais.
Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Les politiques sont en train de nous expliquer que la privatisation, ça va résoudre le problème du chemin de fer. Or, la privatisation, ça fonctionne comment? Donc, effectivement, le monsieur vous a expliqué qu'on avait vendu des packages. Donc, certaines entreprises ont postulé pour prendre des packages. En région PACA, il y a l'entreprise sur Nice, Transdev, qui a gagné un package Marseille-Nice, effectivement. Mais comment, dans le détail, si on rentre dans le détail de cette privatisation, comment ça fonctionne? Aujourd'hui, la région donc PACA va fournir du matériel à cette entreprise neuf. Donc déjà, l'entreprise n'a aucun matériel à amener puisque c'est la région qui achète des rames neuves. Donc quand M. Truchot dit on va avoir de la climatisation, etc., effectivement, les rames sont neuves. Donc j'espère effectivement qu'on va avoir de la climatisation et des capacités de personnes.
Je pense à ça parce que j'ai pris un TER ce week-end, il faisait une chaleur à crever alors que c'est pas encore les grandes chaleurs et parce qu'il y avait un problème d'aération et régulièrement sur cette ligne il y a des problèmes d'aération. Et il me trouve que j'ai pris le train en Italie, pareil le TER italien, je sais plus comment il s'appelle, et je trouvais que les trains étaient climatisés, aérés, très agréables et voilà, je faisais le comparatif.
Non, mais il n'y a pas de souci là-dessus.
Après, je suis un fan du train, hein. J'adore le TGV. Après, je suis le premier à prendre le train et adorer ça. Hein.
Après, honnêtement, nous, les contrôleurs, on fait notre travail, on essaye de faire au mieux par rapport à ce qu'on a comme matériel, à ce qu'on... Il ne faut pas croire qu'on est là pour saboter le travail, c'est totalement faux. Moi, enfin, ce qui me concerne, c'est comme ça que je suis. Après, vous dites SNCF et les contrôleurs, parce que si on est énormément visé, il faut être honnête avec nous, vous nous visez énormément. Après, nous, on défend énormément le service public, on n'est pas des gens qui sommes là pour...
Qu'est-ce que vous pensez de votre accord sur les retraites?
Mais monsieur, mon accord sur la retraite, je vais vous expliquer. Moi, je suis contractuel. Donc déjà, mon accord sur la retraite, j'ai envie de vous dire, je suis au statut comme tout le monde. Hein, je suis pas au statut.
Et pour ceux qui vont en bénéficier, qu'est-ce que vous en pensez?
L'accord sur la retraite, il est très compliqué parce qu'il est très complexe à prendre en charge.
Parce
qu'il y a quand même certains critères qui sont. Tout le monde n'aura pas cet accord-là. Et en plus de ça, vu que la privatisation est là, des personnes, parce que aujourd'hui, les agents SNCF, bon, si on va être très ferme, on va être très grande gueule, on est nul. Si on écoute tout le monde, on est nul.
Personne ne dit ça. Non,
mais on travaille
pas. Tout le monde a rendu hommage à la SNCF.
On entend bien, mais si on écoute beaucoup de personnes, on travaille pas beaucoup, on travaille 2 heures par jour. Si on écoute, on est payé 5000 euros par mois. Bon, c'est peut-être très
caricatural. Donc en fait, vous dites,
arrêtons le bashing.
Arrêtons de cogner sur la SNCF et puis arrêtons de demander la privatisation parce que de fait, elle est déjà en train de s'installer, notamment en région PACA, la région sud. Alors attendez, on a encore un témoignage, Nicolas, celui de Luc, qui est du côté des Bouches-du-Rhône aussi aujourd'hui. Bonjour Luc.
Oui, bonjour les grandes gueules.
Alors mon cher Luc, vous avez entendu Pierre dit oui à la privatisation, mais à condition qu'on respecte les paquets, que ce soit pas uniquement la privatisation des TGV. Nicolas dit, de fait, elle est en train de s'installer et c'est pas sûr que ce soit pour le mieux. Qu'est-ce que vous en dites, vous, Luc, alors?
Bah, moi, je dis que il faut non seulement conserver la SNCF telle qu'elle est, alors bon, il y a certainement des choses à revoir au niveau de son administration, de sa gestion, qui visiblement pose problème. Mais par contre, il est impératif pour moi que le service public reste un service public. Ce qui est en train de se privatiser, ben, personnellement, moi, je mettrais déjà les contrats à la poubelle, c'est clair. Moi, je pense que le fait que ce soit public, et bien service public, c'est qu'on maintienne bien sûr en état les grandes lignes, mais également que l'on remette en service beaucoup de petits réseaux, beaucoup de petites lignes qui ont été délaissées et qui aujourd'hui créent des zones qui sont très très mal desservies.
Luc, est-ce qu'on peut distinguer le service public, le service rendu à un usager, du mode de production de ce service public? Voilà. C'est-à-dire que, par exemple, la cantine des enfants, si c'est fait par un agent public, Monique, qui est salarié de la mairie, Monique, depuis 30 ans et qui cuisine.
Une ou femme, si c'est fait. Femme, t'as vu, qui est salarié et qui cuisine.
Ou il a dit d'autres choses plus choquantes aujourd'hui.
Ou si c'est fait par Sodexo, Elior, etc. Et qu'à la fin, l'enfant, dans son assiette, pour le même prix, il a quelque chose de bonne qualité. Bah, moi, je m'en moque un peu. Le mode de production du service public n'a pas d'importance.
La différence, effectivement, mais alors, la différence, c'est que pour avoir goûté les deux, de la cuisine collective faite localement et de la cuisine faite
Monique,
par Elior,
je vous parle à qualité constante. Changez pas
peut-être
de
la cuisine de Monique sera meilleure que la cuisine d'Elior.
Monique ne va pas enrichir les actionnaires ni quoi que ce soit, ce qui fait qu'il y a davantage le coût qui sera mis.
Oui, mais ça coûtera moins cher aux parents. C'est-à-dire qu'on veut tout et c'est au contraire. C'est-à-dire qu'on veut une cantine et un repas à 1 euro ou 2 euros et puis on veut quand même qu'il y ait Monique.
Il faudrait qu'on ait Monique au 32-16 pour qu'elle confirme
comment elle cuisine les poissons panés. Ensuite, sur les petites lignes, pardon, mais je veux alléger la barque de la SNCF. C'est pas la SNCF qui décide de fermer la ligne Trifouille en Vesoul. C'est le politique. Oui. Ce sont les conseils régionaux qui, à un moment, arrêtent de financer. Voilà tout.
C'est bien pour ça que j'ai dit qu'il y avait tout le système à remettre à plat, et pas que la gestion, mais l'organisation même.
Oui. Mais moi, je pense que.
Et donc, Luc, pas de privatisation.
Ah non, pas de privatisation, aucune, et même au-delà.
Il faut pas revoir le fonctionnement quand même de cette compagnie. Alors,
il faut revoir le fonctionnement, certes, mais la privatisation, je ne pense pas que les personnes qui sortent des mêmes écoles, une fois qu'elles sont dans le privé ou dans le public, soient plus ou moins bêtes.
Alors Luc, on va écouter un dernier avis après Pierre, Luc et Nicolas qui nous ont emmené des Bouches-du-Rhône au Var. On va aller dans le Nord.
Chez Antoine.
Pourquoi t'es du Nord aussi, Julie?
Non, mais j'aime bien les gens du Nord.
On dirait pas pourtant.
Ça dépend qui, effectivement.
Nous sommes avec Jérémy, préparateur de commandes. Bonjour, Jérémy.
Oui, bonjour.
Vous nous appelez d'où dans le Nord?
Douai.
C'est pas tout à fait à côté. Il y a bien 150 bornes depuis Dunkerque.
Alors, Jérémy, est-ce que vous êtes pour la privatisation, oui ou non?
Oui, totalement, oui.
Pourquoi?
Parce que je prends le train tous les jours. Tous les jours, donc du lundi au vendredi. Ça m'arrive de prendre de temps en temps le week-end également. Et j'ai des retards quasiment sur chaque voyage, j'ai des retards, des problèmes. Comme là, j'ai reçu une notification, mon train de 12h52 est annulé.
Carrément, donc, pourquoi?
Ben, incident sur la ligne, voilà.
Ah oui, un grand classique.
Et c'est régulier. Comme là, la semaine dernière, j'ai eu un retard de 3 heures.
Et vous pensez que...
17 heures. Ah oui. Et je suis rentré chez moi, il était plus de 21h.
Et pour le train du quotidien, c'est compliqué
d'avoir une grande perturbation. Vous pensez que si c'était privatisé, ça n'existerait plus?
Ça pourrait peut-être aider à une meilleure gestion des lignes, meilleure gestion des trains, meilleure gestion des lignes, quoi, en fait.
C'est sur... Il y aurait peut-être aussi, pardon, mais ce qui existe dans le privé, la culture du résultat. C'est-à-dire qu'on se donne les moyens d'offrir le meilleur des services. Et on ne traite plus, vous, Jérémy, comme un usager, mais comme un client. Vous traitez comme un client. Et ce que disait toujours Jacques Maillot. Et le client, c'est quand on veut satisfaire le client, on s'en donne les moyens. Et c'est peut-être parfois ce qui manque, effectivement, dans ces compagnies publiques.
Et puis surtout, si les marchés sont attribués pour 5 ans, au bout de 5 ans, on voit le résultat. Voilà. Vous avez eu un taux,
Jérémy,
de retard,
oui,
le temps.
Est-ce que vous ne craignez pas, question, que les prix augmentent du coup?
Mais
au nom de la rentabilité.
Si j'ai un bon service à côté, il n'y a pas de souci.
Vous êtes prêt à payer?
Aucun problème, parce que là, je paye quand même une certaine somme. Je suis à plus de 100 euros par mois pour des retards de train quasiment tous les jours. Que ça soit à l'aller, sur le retour, je fais Douai-Lille, Lille-Douai. C'est infernal. Tous les jours.
Imaginez-vous que la région met encore au moins la même somme, voire plus, en termes de subventions versées à la SNCF.
On ne paye pas le vrai prix.
Voilà, on paye même pas le vrai prix. Donc vous imaginez, pour le double, voire le triple de ce que vous payez, le service que vous avez. Bah, moi, je pense que la seule option, c'est la privatisation.
La seule activité qui est rentable, c'est TGV.
Merci Jérémy. Fin de la discussion. Faut-il privatiser la SNCF pour avoir un meilleur service, oui ou non? Alors, Julie était non. Olivier Charlet, Antoine était oui. Ah, alors attention, résultat final.
Je pense que je vais me prendre une...
C'est un oui, 67%. Je pense que les derniers mouvements à répétition ont plutôt joué des mouvements sociaux.
Et la réforme...
La réforme des retraites.
Ouais, ont joué en votre faveur. Dans un instant...
Votre éloquence, messieurs.
On va reparler aussi...
Pourtant, Julie s'est bien battue.
On va reparler de la Nouvelle-Calédonie. Et cette question, y a-t-il un racisme anti-blanc en Nouvelle-Calédonie? Est-ce que c'est ça que l'on a vu sur les barrages aussi? 32-16 pour venir en parler avec les GG.
Carrefour Banque et Assurance.
Quand vous me dites, la carte passe, invincible. Et oui, votre carte de crédit passe standard propose de nombreux avantages. Et en plus, profitez de 30 euros offerts en bon d'achat à la suite de sa première utilisation, au comptant ou à crédit. Et c'est jusqu'au 24 juin chez Carrefour Banque et Assurance.
Carrefour Banque et Assurance. Délai légal de rétractation de 14 jours, voire conditions en agence banque ou sur carrefour-banque.fr. Carrefour Banque, RCA Sévry, numéro 313-811-515, numéro Orias 07-031-939.
RMC. 9h midi. Les Grandes Gueules.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Les Grandes Gueules sur RMC, RMC Story. Venez au 32-16, parler maintenant de la Nouvelle-Calédonie avec les Grandes Gueules, avec Julie, Antoine et Charles. Martinez, Dierce et Consigny, vous prenez les noms et puis vous regardez, tiens, si on faisait Julie Dierce.
Ou non, merci.
Charles Martinez et Antoine Consigny. Voilà.
Il en rêve. Antoine Consigny.
Ça sonne pas si mal.
C'est-à-dire que. Il resterait quoi de nous deux sur Antoine Consigny? Je sais pas bien ce que ça donnerait, parce qu'on est d'accord.
Ça me rappelle
en fait.
À chaque fois, rappelle-moi la devise de ta famille. J'avais beaucoup aimé cette devise.
La devise d'Henri Jacqueline, notre ancêtre. Si j'avance, suivez-moi. Si je recule, tuez-moi. Si je meurs, vengez-moi. Ça, c'est
bah oui, ça, oui,
ça
oui.
Du panache.
C'est autre chose que tu casturais pas.
Hein. Allez, on y va pour la Nouvelle-Calédonie.
RMC, les Grandes Gueules.
Ben justement, tu casses, tu répares en Nouvelle-Calédonie. Alors là, la note, c'est à peu près 1 milliard. Mais surtout, aujourd'hui, est-ce que vous pensez qu'il y a un racisme anti-blanc en Nouvelle-Calédonie? Oui ou non? 32-16 pour en parler avec les GG. En fait, c'est le député Renaissance élu local, Nicolas Metzdorf, qui l'a dit. Il a dit ceux qui sont sur les barrages. Et il a parlé des émeutiers. Les émeutiers sont des racistes anti-blancs nourris par un discours hostile à ceux qui sont sur place mais qui n'ont pas la même couleur de peau.
Oui, et même le communiste Fabien Roussel, qu'on ne pourra pas accuser d'épouser les thèses identitaires d'Éric Zemmour et des autres, a reconnu qu'il y avait du racisme anti-blanc en Nouvelle-Calédonie, mais lui, il dit que ses propos sont minoritaires. Mais donc, il existe bien, et d'ailleurs, selon un sondage, 57% des Français estiment qu'un racisme anti-blanc est au cœur des tensions en Nouvelle-Calédonie. En fait, c'est assez factuel, puisqu'on a entendu des slogans, on a entendu aussi des mots qui ont été échangés. Alors, effectivement, est-ce que ça appartient à une petite minorité? Est-ce qu'il y a un vrai souci de lutte raciale en Nouvelle-Calédonie? Il faut quand même rappeler que, étonnamment, mais les Blancs ne sont pas majoritaires, hein, ils sont même minoritaires. C'est une population qui est souvent métissée. Il y a certes les Kanaks, mais depuis, beaucoup de populations différentes sont venues en Nouvelle-Calédonie, notamment des populations asiatiques. Donc, on a peut-être aussi une vision un peu racialiste, un peu bête et méchante de la Nouvelle-Calédonie, alors que c'est peut-être plus complexe. Mais est-ce que ce racisme anti-blanc, selon vous, existe?
Oui ou non? 32-16, Antoine.
Moi, je vais surprendre personne en pensant que, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est une logique décoloniale qui est à l'œuvre. On a dit à un certain nombre de personnes autochtones, à la couleur de peau plus foncée, noire, on leur a dit « vous vivez mal parce que les Blancs vous ont tout pris ». Et donc
qui leur a dit ça?
Alors, je pense que ce sont des acteurs politiques de gauche
des indépendantistes qui ont voulu jouer sur le terrain racial et des puissances étrangères qui jouent sur cette question-là, comme on le voit dans beaucoup de pays. Et donc, dès que on engage une lecture raciale quelque part, on engage une situation de guerre civile. Moi, je le dis, je suis un patriote français, mais je refuse la lecture raciale. Les Français peuvent être de toutes les couleurs, etc. Nous avons une culture en commun. Et là, en Nouvelle-Calédonie, on a basculé dans la logique raciale pour un grand nombre d'entre eux, et c'est ça qu'on doit combattre à tout prix. Et donc, quand je dis qu'on doit rétablir la normalité sur un territoire de la République, ça passe également par ça, par le fait de lutter, y compris contre les petits discours du quotidien, où on dit « les Blancs occupent les meilleures places », etc. Non, non, peut-être que des Blancs occupent des bonnes places, mais ils n'occupent pas ces places du fait de leur couleur. Il n'y a pas d'apartheid en France. Et la République française a permis à des Kanaks de s'élever plus qu'ils n'auraient pu le faire s'ils n'avaient pas été au sein de la République française. Donc vraiment, il faut lutter contre le discours décolonial en disant qu'il n'y a pas de racisme. Je pense au comité Adama, tout ça, ça fait un mal fou, parce que c'est faux. Les Noirs ne sont pas discriminés dans notre pays. La France n'est pas un pays d'apartheid. Au contraire, la France est particulièrement ouverte à la diversité, et il faut le dire clairement pour lutter contre ceux qui veulent notre mort.
Julie.
Juste très rapidement, avant de revenir sur le sujet en Nouvelle-Calédonie, les Noirs ne sont pas discriminés dans notre pays. Alors certes, puisqu'on ne reconnaît pas de race dans notre constitution, on n'est pas en mesure d'avoir des statistiques officielles sur qui, de manière faciale, est discriminé ou non dans notre pays. Mais je pense qu'on sait aujourd'hui qu'il y a une forte discrimination en fonction du sexe, du genre, de la couleur de peau. Il faut pouvoir l'entendre aussi pour pouvoir résoudre ce problème, Antoine. Il faut pouvoir l'entendre. On ne peut pas nier une...
C'est plus compliqué, par exemple, pour décrocher un logement.
Oui, et on le sait aujourd'hui, quand on a des tests de CV sans le nom ou sans la photo, les résultats ne sont pas les mêmes. Mais bon, ça, c'est un autre point. On pourra en débattre. Je suis assez perturbée par le fait que tu même nies ce problème-là. Mais c'est pas grave.
C'est le nom et le prénom.
On reviendra là-dessus.
Ce n'est pas la couleur. Toutes les études démontrent que ce n'est pas la couleur.
Mais tu plaisantes. Mais tu plaisantes.
Tu es noir.
Écoute, je vais te dire quelque chose, et tu vas me dire, ah, ta petite expérience, on s'en fout. J'ai grandi à Sarcelles, pendant les émeutes. J'étais au lycée Jean-Jacques Rousseau, en ZEP, à Sarcelles, pendant les émeutes, suite aux morts des deux dans la centrale. Il y a eu de grosses émeutes. Les contrôles de police qui avaient lieu devant mon établissement ne concernaient que mes amis noirs et arabes. Moi, blanche, c'était pas une question de CV, c'était pas une question de prénom. Les contrôles de police ciblaient particulièrement une catégorie de la population mineure. Je te dis ce qui se passe en France.
Ça
il faut pouvoir l'entendre aussi pour pouvoir
ça
avoir
une culture.
Il faut l'entendre. Tu sais très bien. Il y a des associations.
Alors,
bref, si on revient sur le sujet en
Nouvelle-Calédonie. Revenons à la Nouvelle-Calédonie.
Je suis vraiment perturbée par ce fait. Vraiment, c'est choquant.
Il y a des blancs aujourd'hui qui sont visés parce qu'ils sont blancs et on dit les blancs dehors.
Le
vous
racisme.
Pas chez vous.
Le racisme. Il faut quand même le redire. C'est une idéologie qui est fondée sur la croyance qu'une race est supérieure à une autre. C'est très précis le racisme. Aujourd'hui, je ne sais pas quels propos sont tenus en Nouvelle-Calédonie, je suis en France. S'il y a toute forme de racisme, c'est inacceptable d'un côté comme de l'autre. En l'occurrence, il faudrait pouvoir comprendre ce qui est dit sur ces ronds-points, il faudrait pouvoir comprendre ce qui est manifesté envers une partie de la population en Nouvelle-Calédonie, mais je pense savoir que ce sont des propos minoritaires et qui, de toute façon, doivent être réprimés. S'il y a effectivement le moindre racisme anti-blanc ou anti-local...
Avoir le droit de vote alors même que tu es un citoyen français sur un territoire.
C'est fou que tu reconnaisses qu'il n'y ait pas de discrimination anti-noir en France et que tu assimiles la revendication locale dans le cadre d'une réforme constitutionnelle à ça. C'est illogique.
Je dis pas qu'il y a du racisme anti-blanc, mais je dis que il y a pas de racisme institutionnel. Clairement, sortez-vous-le de la tête. La France est le
pays. Mais
il
y a du racisme anti-blanc en Nouvelle-Calédonie.
Et donc, en revanche,
bah oui.
Institutionnellement, il y a des lois en Nouvelle-Calédonie qui sont défavorables à la population blanche. Pardon. Et donc là, il y a un racisme institutionnel.
Alors, on va
tu ne peux pas
de
voter
la population blanche.
Tu ne peux pas voter si tu n'es pas Kanak. Bah, excuse-moi, ça c'est quoi?
On va prendre le témoignage d'Anthony. Bonjour Anthony.
Bonjour.
Vous nous appelez de Moselle avec un témoignage via la Nouvelle-Calédonie et l'un de vos meilleurs amis qui est sur place.
C'est ça, mon meilleur ami en fait habite là-bas depuis 13 ans. D'accord. est parti en tant qu'expat. Il a en fait évolué là-bas. Il a ouvert sa société là-bas. Malheureusement, lors des incidents de la semaine dernière, ben, il s'est fait cramer son showroom ainsi que deux camionnettes. J'ai des nouvelles de lui pratiquement quotidiennement parce que ben voilà, je m'inquiète quand même pour lui. Au niveau en fait pour le sujet, je pense que il y a deux points. Le premier, je vais revenir aussi au sujet de ce matin ou aussi de la Nouvelle-Calédonie, c'est que les Kanaks, enfin il y a une minorité de racistes parce que ils se sentent envahis entre guillemets par entre guillemets les Français. Mais il y a énormément de choses qui sont faites pour eux et malheureusement, ils n'en profitent pas parce qu'ils ne sont pas qualifiés. Aujourd'hui, vous avez ce que je disais au standard, vous êtes expat, vous voulez trouver du travail. Si vous habitez pas la Nouvelle-Calédonie, déjà vous pouvez pas postuler. De deux, si vous cherchez un emploi, on va privilégier d'abord les Kanaks, les gens du cru. Et si vous ne prenez pas un Kanak, en fait, vous êtes obligé de le justifier. Et aujourd'hui, en fait, étant donné qu'ils ne sont, c'est des gens qui ne sont pas qualifiés, au final, ils trouvent très rarement du travail. Et donc, ça peut faire un peu.
Mais Anthony, vous racontiez l'histoire de votre meilleur ami dont on a brûlé le garage, hein, oui. C'est ça, le showroom, avec ses camionnettes. Mais est-ce qu'on l'a brûlé parce que c'est les émeutes? On l'a pas brûlé parce qu'il est blanc?
Non, on ne l'a pas brûlé parce qu'il est blanc. Non, on ne l'a pas. Je pense que c'était parce que c'était les émeutes. C'est pas parce qu'il est.
Est-ce qu'il y a quand même une discrimination là-bas selon vous ou pas alors?
Je pense qu'il y a une discrimination, mais par un minimum de Kanaks, il y a. Et justement, et c'est ces personnes-là, entre guillemets, très vulgairement, qui foutent le bordel, parce qu'ils ne veulent pas que, en fait, cette réforme passe. Parce qu'aujourd'hui, c'est clair et net, si la réforme passe, les indépendantistes ne pourront plus jamais demander une indépendance en Nouvelle-Calédonie. Tout simplement. Aujourd'hui, ils sont 40% à pouvoir voter. Ces 40%-là ont allé à essayer de réussir à faire passer le oui. Bon, on le sait très bien, le dernier vote n'est pas très. On peut pas en prendre compte.
Il n'est pas très représentatif parce qu'il avait été boycotté par une partie de la population, par les indépendantistes notamment. Ouais,
si demain cette réforme passe, on va dire 20% de l'île va pouvoir voter. Ces 20%-là, on sait très bien qu'ils voteront non. Et donc, ça sera fini pour les indépendantistes. Et donc, c'est pour ça qu'en fait, on a tous ce bordel, quoi.
Ok, Anthony, on va continuer d'en discuter. Je vous remercie d'avoir été avec nous. Bon courage à votre ami, qu'on pourra peut-être un jour avoir au téléphone, d'ailleurs. N'hésitez.
Écoutez, je lui ai envoyé un message via Facebook. Messenger, j'attends de ses nouvelles. Je lui donnerai.
Il fait partie de ces milliers de personnes là qui ont vu leur commerce détruit, incendié. Charles, alors, est-ce qu'il y a du racisme anti-blanc en Nouvelle-Calédonie?
Moi, je pense qu'il y a un déchaînement mondial de racisme anti-blanc aujourd'hui. Je pense qu'il y a, y compris aux États-Unis, y compris à Hollywood, y compris dans les médias, y compris en France, dans toutes les institutions publiques, dans le cinéma, dans le monde culturel, je constate qu'il y a aujourd'hui un racisme anti-blanc, oui, qui se développe sous couvert de wokisme, de diversité, d'inclusion, de discrimination positive, de réparation des années d'esclavage et de colonisation, d'exclusion sociale des populations immigrées, etc. En fait, il y a une espèce de retour de balancier qui se fait et qui en réalité est très violent, que ce soit symboliquement ou en pratique, à l'égard des blancs. Je pense qu'il y a ce phénomène-là à l'envers. Quand on vous explique, quand certains vous disent qu'à compétences égales, ils vont plutôt recruter le profil issu de l'immigration parce que
c'est pour rétablir un équilibre aussi aujourd'hui.
Voilà, c'est au nom de ça. Ouais. Mais sauf qu'en pratique, qu'est-ce que vous faites quand vous faites ça?
Il y a une libération de la part.
Vous faites du racisme anti-blanc. Mm-hmm. Quand vous avez des gens comme Rokhaya Diallo qui comptent le nombre de blancs dans un tel ou tel assemblée ou qui déplorent une surreprésentation ou qui n'en finissent pas d'inscrire le procès de l'Europe, de l'Occident, en fait, c'est une forme de racisme anti-blanc.
Il y a quand même une libération de la parole. Moi, j'avais été très choqué quand la patronne de France Télévisions, Delphine Ernotte, un matin, au micro d'une grande radio nationale, avait dit qu'il y avait trop d'hommes blancs de plus de 50 ans à la télévision.
Exactement.
Imaginons la même phrase si elle avait dit il y a trop de juifs de plus de 50 ans, il y a trop de gays de plus de 50 ans, il y a trop de noirs de plus de 50 ans. Mais Delphine Ernotte, aujourd'hui, ne serait plus patronne de France Télévisions. On aurait porté plainte pour discrimination à raciale, elle serait jugée. Elle avait pas, et donc c'était normal. Alors je comprends ce qu'elle voulait dire. Elle veut rajeunir, elle veut ouvrir, très bien. Mais le fait de dire quand même, quand on est patron d'un service public, il y a trop d'hommes blancs. Enfin, c'est du racisme, pardon, ben oui. Il n'y a pas d'autre mot.
Et c'est un phénomène, par ailleurs,
je crois que vous confondez discrimination et racisme.
C'est un phénomène aussi, en général,
Quand on juge les gens à leur couleur de peau, ça s'appelle du racisme.
Le racisme, c'est vraiment la croyance qu'une race est supérieure à une autre.
Non, le racisme, c'est aussi juger les gens sur leur couleur de peau.
Julie,
pardon, mais dans le mouvement de Black Lives Matter, dans le tout ce mouvement aux États-Unis, ouais. tu as des gens qui sont
en
quelque sorte des suprémacistes noirs.
Je suis complètement d'accord avec toi, disent, c'est pas normal dans un sens comme dans l'autre.
Dans un truc très racial. Et mais ça s'inscrit dans un phénomène, là je reviens plus précisément sur la Nouvelle-Calédonie, il y a maintenant un phénomène mondial très fort de rejet de l'Occident et en particulier de rejet de l'Occident et de l'Europe dans son influence internationale, ses zones d'influence internationale. Regardez le nouveau président sénégalais, qui est en gros ouvertement homophobe, hein, si on arrive bien à lire ce qu'il dit, qui est polygame. Bon, ça le regarde, c'est autorisé là-bas. Oui. C'est pas très féministe. Hein. J'ai pourtant pas entendu beaucoup les féministes au sujet de ce nouveau président.
Il n'y a pas de MeToo là-bas.
C'est bizarre, ça les intéresse moins que la liste des 10 acteurs de Cannes, etc., qui ont ploté une nana en boîte et qui se retrouvent au bord de la tôle comme Nicolas Bedos. Mais je constate que là-bas, par exemple, que dit le nouveau président sénégalais, c'est qu'il ne veut plus de soldats français, il rejette toute influence de la France. Souvenez-vous, en Côte d'Ivoire...
Ça s'alimente en plus des ingérences étrangères.
En Côte d'Ivoire, souvenez-vous, quand le président Gbagbo scandait à la radio chacun son blanc parce que quand il y a eu des troubles et ce sont évidemment les Français qui ont été visés. On s'est fait sortir de la même manière du Niger très violemment, et il y a tout un mouvement comme ça de rejet de l'Europe, etc. Et moi je pense, et je terminerai par là, je pense que c'est dramatique pour la France, parce qu'une des forces de la France, c'est précisément son influence internationale.
Et ça se traduit alors par un racisme anti-blanc qui est peut-être instrumentalisé d'ailleurs là-bas avec des puissances étrangères, par les ingérences.
Comme en Afrique,
comme Sébastien, dans un instant, à Clermont-Ferrand, dans le Puy-de-Dôme, il a vécu là-bas, en Nouvelle-Calédonie. Il va nous dire ce qu'il en pense.
Carrefour Banque et Assurance.
Quand vous me dites « la carte passe », invincible. Eh oui, votre carte de crédit passe standard propose de nombreux avantages. Et en plus, profitez de 30 euros offerts en bon d'achat à la suite de sa première utilisation, au comptant ou à crédit. Et c'est jusqu'au 24 juin chez Carrefour Banque et Assurance.
Carrefour Banque et Assurance. Délai légal de rétractation de 14 jours, voire conditions en agence banque ou sur carrefour-banque.fr. Carrefour Banque RCA Sévry, numéro 313-811-515, numéro Orias 07-031-939.
RMC, 9h midi, les grandes gueules.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Les GG, les grandes gueules sur RMC, RMC Story, discussion, débat, témoignage durant 3 heures tous les jours avec aujourd'hui Antoine Dire, Julie Martinez et Charles Consigny. Et Sébastien qui va intervenir dans notre discussion sur ce qui se passe en Nouvelle-Calédonie. Bonjour Sébastien.
Bonjour.
Est-ce que vous pensez qu'il y a du racisme anti-blanc là, qui s'exerce en ce moment en Nouvelle-Calédonie?
Alors, pour moi, c'est pas que en ce moment. Moi, j'ai voyagé il y a plusieurs années de temps en Nouvelle-Calédonie deux fois. Et c'est vrai qu'on peut comprendre le racisme anti-blanc quand vous avez d'un côté, moi ce qui m'avait choqué, c'est qu'il y avait énormément de bidonvilles. Beaucoup de Kanaks vivent dans les mangroves avec ils peuvent même voir des tôles sur le toit. Et juste à côté, vous avez des villas qui font des milliers de mètres carrés de terrain avec des piscines et que principalement c'est des Occidentaux qui vivent. On peut comprendre déjà la jalousie et même l'envie de voir des gens qui sont blancs principalement qui se traînent de vie. Après, moi, en tant que touriste, je n'avais pas vraiment ressenti. Et je trouve qu'il y a aussi une part d'arrogance de la part des Blancs. Parce que beaucoup me disaient, mais pourquoi tu dis bonjour aux Kanaks? Alors moi, je suis Auvergnat. À la campagne, tout le monde se dit bonjour. Et c'est vrai que, en tant que voyageur, c'est vrai qu'on voit des gens, on dit bonjour. Et les gens disaient, mais pourquoi tu dis bonjour à tout le monde? Et déjà, si on n'intègre pas les Kanaks en ayant déjà de la sympathie, comment vous voulez que tu aies de la sympathie en retour si on les prend de haut parce que on est blanc, parce qu'on vit dans des quartiers beaux et que à côté, certes, il y a des tensions et que ça pose des problèmes. Et faut aussi se concilier dans les deux sens, je pense.
Donc ça veut dire que ce qui crée la tension aujourd'hui, c'est essentiellement la disparité économique, quoi, en fait. C'est ça.
Et oui, oui, énormément. Mais après aussi, alors moi, c'est ce qui m'avait choqué, c'était un Kanak qui m'en avait parlé, mais il dit déjà de base, les Kanaks n'est pas le peuple calédonien. Les Kanaks est le peuple qui est arrivé il y a 400 ans en Calédonie. Le vrai peuple calédonien n'existe pas. Donc si on reprend l'histoire, il y a 400 ans, et ben les Calédoniens ont fait ce que les Blancs ont fait. Et ça, pareil, ben, par exemple, on va dire que la France a conquis il y a 200 ans, 300 ans, des pays, des peuples, et qu'elle doit se sentir redevable. Par contre, dans l'autre sens, et ben, parce que eux ont fait ça, on doit l'oublier.
Pardon, alors, mais c'est très dangereux, parce que si en plus on va sur ce terrain-là, si on commence à faire le procès de tous les peuples qui sont entrés en effraction, en effraction sur un territoire qui n'était pas le leur, dans ce cas-là, on s'en sort plus. Simplement, quand même, il y a peut-être. Mais ce que vous dites, Sébastien, quand même, c'est qu'il y a sans doute quand même des disparités sociales qui font que ça crée aussi des rancœurs,
Ça m'avait choqué. Voilà. Et quand on sort le soir, c'est principalement toute la vie est chère. Hein. On peut pas se mentir. Hein, ouais. Déjà, si vous voulez manger même local, c'est le même prix qu'en France. Alors que des mangues, par exemple, la mangue, qui est un produit qui est local, coûte aussi cher qu'en France. Alors qu'en France, on le fait importer. Donc rien que déjà ça, quand vous gagnez très peu parce que la vie est très chère, et ben ça crée de la disparité énorme.
Mais Sébastien, aujourd'hui justement, c'est pour ça qu'il va falloir
Donc peut-être plus que du racisme, il y a de la la jalousie ou en tout cas la rancœur
face à des
un partage sociale. Des richesses qui n'est peut-être pas totalement
c'est pour ça que le voyage du président de la République ou la mission qu'il va mettre en place, elle est beaucoup plus complexe que ça, c'est-à-dire que ça va au-delà de la réforme électorale en elle-même. C'est-à-dire ce qui se passe aujourd'hui en Nouvelle-Calédonie, c'est exactement ce qu'on a.
Si il lâche sur la réforme et qu'en plus il distribue des milliards.
Ouais, mais c'est pas des milliards. Mais c'est pas des milliards.
Ça devient un peu fatigant quand même.
De toute façon, un milliard, on va le distribuer pour réparer. Ça, c'est une certitude. Parce que les assurances, vu les dernières émeutes, elles commencent à faire signer des clauses aujourd'hui pour les magasins, pour les commerçants et autres. Avec des franchises énormes. Donc finalement,
les richesses de la mine de nickel sont passées où? C'est-à-dire qu'il y avait un deal de laisser au peuple kanak la gestion de cette mine. Ils ont eu des richesses. Là, le cours du nickel est un peu moins bon, effectivement, mais je ne pense pas qu'ils aient eu le moindre frein pour réussir un développement économique, et je suis certain que certains Kanaks ont réussi, ont aujourd'hui des sociétés, etc. Donc, projeter son propre échec personnel sur une situation sociale ou institutionnelle globale, c'est souvent trop facile. Et je crains que des gens qui ne réussissent pas se projettent dans une espèce de victimisation, ce serait pas de leur faute, ce serait le système, etc.
Allez-y, Sébastien.
C'est vrai que l'impression que ça m'avait donné, c'est que les Canadiens veulent le beurre et l'argent du beurre. C'est-à-dire qu'on leur envoie énormément d'infrastructures, on a tout fait, comme tout à l'heure, l'intervenant disait que, il y a la priorité pour les Kanaks, Et le problème, c'est que, on donne la possibilité, mais il y a ce côté, un peu trop de fierté de la part des Kanaks de dire, on n'en veut pas, faut que ce soit nous qui le faisons. Mais gérer, par exemple, une entreprise de nickel, c'est pas comme ça que ça s'apprend. C'est des, tout ce qu'on leur donne, il y a énormément d'infrastructures qui, sont vides quand on y va. Parce qu'il y a cette fierté de dire, vu que ça vient des Blancs, on va pas y aller. Voilà. Je pense qu'il y a ce côté-là, c'est que vu que c'est les Blancs qui donnent.
C'est ce que vous avez vu, vous, en étant sur place.
Oui. Et alors après, il y en a qui sont pareils, il y a les deux écoles. Moi, j'étais avant le référendum, il y en a beaucoup. Et pourquoi le référendum, le nouveau référendum, ça a été voté non? Il y en a énormément qui comprennent la chance qu'ils ont d'être que la France soit. Donc. Comme je dis, essayez de voir quand il n'y aura pas la France, et après peut-être qu'ils pleureront que la France revienne.
Alors Sébastien, on a un tout autre point de vue qui arrive avec, c'est Pierre, un fidèle des GG qui nous appelle de Corse du Sud. Bonjour Pierre.
Bonjour.
Pourquoi vous avez bondi pour notre discussion là, Pierre?
Moi franchement, ça fait une semaine que j'entends vos débats sur la Nouvelle-Calédonie et je suis très choqué. Parce que vous êtes toujours en train de comparer les Kanaks et les Blancs, et vous allez toujours dans le sens des Blancs. Voilà.
Non, on s'interroge là.
Alors que le peuple kanak, eh ben, ils sont là peut-être que depuis 300 ans, mais ils sont opprimés depuis tant d'années. Et la France a toujours eu une politique coloniale envers le peuple kanak.
Mais Pierre, en quoi ils seraient opprimés? Pardon, les mots ont un sens. En quoi la France a opprimé les kanaks?
Vous avez 2000 personnes par an qui arrivent sur votre terre et qu'à un moment vous retrouvez en minorité, eh ben, vous êtes opprimés. Et c'est la même chose en Corse.
Donc le peuple français qui a 500 000 étrangers qui arrivent sur sa terre est un peuple opprimé?
Pardon, je n'ai pas compris, excusez-moi.
Si on suit votre raisonnement, la France, la République française, accueille 500 000 étrangers par an.
Non, mais, le peuple français est opprimé. Voilà.
Ah oui, d'accord. Bon, on peut y aller sur ce débat. Moi,
déjà, en plus, à chaque fois, moi déjà, quand les loyalistes, faut que je trouve un terme. Mais colonial, c'est un truc de fou. Ça me rend fou, franchement.
Oui, mais enfin, Pierre, il y a eu quand même 3 référendums. Alors, j'exclus le dernier, parce que le dernier a été boycotté par les indépendantistes. Les deux précédents, les habitants de Nouvelle-Calédonie ont dit oui, ont dit non à l'indépendance.
Vous savez très bien que les référendums, c'est pipé tout le temps. Ça va toujours dans le sens du gouvernement. On l'a vu pour les référendums pour l'Europe.
C'est faux, puisque le référendum pour l'Europe, c'était justement contre le. Ça allait dans le sens contraire de ce que voulait le président.
Le gouvernement, il a fait passer. Vous savez très bien qui c'est qui tire les ficelles là-haut.
Attendez, le référendum, quand la réponse ne convient pas, on conteste toujours.
Il y a une majorité de Kanaks qui veulent rester français. Hein. Pardon, on parle d'une petite minorité agissante.
Il y a beaucoup de Kanaks qui n'ont pas envie que la Nouvelle-Calédonie soit indépendante.
Et le gouvernement néo-calédonien, il y a des Kanaks au gouvernement calédonien, Pierre. Donc, c'est là où je suis pas.
Chacun a sa vision des choses.
Ah, bien sûr. Bien sûr. Il y a Julie qui voulait vous répondre. Julie.
Non, ce que voulait dire Pierre, c'est que effectivement, on a pris un angle assez particulier en abordant le débat, qui est de se poser la question, y a-t-il un racisme anti-blanc, alors qu'on aurait pu essayer de comprendre et envisager les choses de la manière différente, c'est-à-dire, y a-t-il par exemple des inégalités qui justifient cette colère?
On l'a entendu.
C'est pour ça que Pierre, son intervention...
On aurait pu dire aussi, y a-t-il un racisme anti-kanak? Voilà. Et ça, vous ne l'avez jamais abordé.
Et vous pensez vraiment qu'il y a un racisme anti-kanak, Pierre? Quels seraient les gestes?
De la part des gens qui sont installés là-bas depuis 10, 20, 30 ans, oui. Pour moi, oui.
Et comment ça se passe?
On a vu quelques vidéos. Après, c'est sûr, il y a toujours eu des vidéos, on peut extrapoler, mais on a vu très bien.
Je vois à laquelle vous faites allusion.
Oui, il y en a une qui sert
celle-là. On voit un homme qui décharge un camion et qui se fait copieusement insulté.
Oui, c'est inadmissible.
Oui, bien sûr.
Mais dans les deux cas, c'est inacceptable. Mais oui, mais c'est comme ces propos qui sont minoritaires.
Oui, mais alors, Pierre, voyez, là où on peut avoir un désaccord, c'est jusqu'à présent, tous les témoignages qu'on a eu de gens depuis le début de la semaine depuis une semaine que l'on parle de la Nouvelle-Calédonie était quand même plutôt louée pour son métissage et une espèce de vivre ensemble qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'inégalité, effectivement, qu'il y a un problème de partage de richesse.
Donc ça veut dire que ça ne marche pas.
Mais pour dire que globalement, quand même, ça fonctionnait. Et c'est pour ça que les deux référendums ont dit on veut continuer d'être rattaché à la France. On voit bien aussi, à travers le partage des pouvoirs, que ça fonctionnait plus ou moins. Est-ce que c'est pas plutôt la frange la plus radicale qui, là, s'est dit, peut-être instrumentalisée, c'est contre la loi électorale, si c'est le moment de foutre le feu, voyez, Pierre. Signale que dans ce qui a brûlé, il y a aussi des biens qui appartiennent à des Kanaks qui ont brûlé.
C'est une bonne question.
Non, mais moi, ce qui m'a
est-ce qu'il brûle autant les biens qui appartiennent aux Kanaks
dans vos dernières émissions, c'est que, pour moi, vous avez toujours pris le parti, je dirais, c'est pas un mot que j'aime bien, mais des blancs. Oui. Voilà. Et pas, vous avez jamais eu la vision des Kanaks qui sont sur place. Voilà.
Mais pardon, on a, je crois, jamais dit qu'on était pour les blancs, en plus.
Non,
et ils sont minoritaires sur l'île. Donc
des gens qui sont
on a simplement, ce qui a été dénoncé, c'est les violences, et le pillage, et le fait de tirer à balles réelles sur des policiers et des gendarmes, quelle que soit la personne qui le fait.
On veut appliquer la loi républicaine sur un territoire de la République. C'est tout ce qu'on demande.
C'est un territoire français. De la République, il y a combien de kilomètres,
Et alors?
17 000.
Et alors? La Corse aussi, c'est un peu éloigné du continent, ça reste la République.
Vous voulez toujours l'indépendance de la Corse ou pas?
Moi, je suis pas indépendantiste, je suis autonomiste. Voilà.
Donc,
Pareil. Avant, on voulait l'autonomie en disant qu'on était un peuple. Maintenant, on est une communauté pour avoir l'autonomie. Et ça me convient pas non plus. Moi, je suis pas une communauté, je suis un peuple corse. Voilà.
Et donc, vous voulez qu'il y ait l'autonomie complètement de la Nouvelle-Calédonie aussi? Le droit du peuple calédonien à disposer de lui-même.
C'est ça. Après, ouais, il ne faut pas aller violent, il ne faut pas en venir à des violences extrêmes comme il se passe en ce moment.
Et comme ça s'est passé chez vous aussi à une époque.
Je l'ai trouvé, les débats surtout voilà, d'un côté et pas de l'autre.
D'accord. Merci Pierre d'avoir été dans les GG. À bientôt. Merci de votre fidélité au. Moi,
j'adore quand c'est un Corse qui est pro-Kanak.
Y a-t-il du racisme anti-blanc en Nouvelle-Calédonie? Qu'est-ce que ça donne? Oui ou non? Oui ou non? Bah oui, 83,4%. On se retrouve demain entre 9h et midi. Vous avez les podcasts à votre disposition, bien sûr, pour rattraper les GG, les grandes gueules, avec les petits indiscrets pendant la pub. Et c'est ainsi que vous entendrez sur les podcasts les GG raconter les transports en commun et leurs souvenirs coquins dans les transports en commun.
Oula.
Eh oui,
ah c'est oui. Chaud. Je vais écouter ça avec attention.
Bonjour.
Oui, ah oui, alors moi c'est Estelle. Bonjour Alain, bonjour les GG. Écoutez, alors Estelle Midi,
vous avez des souvenirs coquins dans les transports en commun, vous ou pas?
Non, ça me dit rien comme ça, il faut vraiment que je réfléchisse. On va parler des députés de la majorité.
Vous avez des souvenirs coquins?
Non, ça veut dire que
oui,
c'est.
J'en ai quelques-uns.
Non, ça veut dire que c'est pas un bon souvenir.
Rien de mémorable.
Non, c'est ce que je veux dire.
Vous l'avez oublié.
Non. Oui, est-ce qu'on peut parler sérieusement quand même? On a quand même des débats incroyables qui arrivent dans Estelle Midi. Vous savez que les députés de la majorité, il y en a certains qui réclament la désindexation des retraites et des allocations sociales pour faire des économies. Ça pourrait rapporter 20 milliards hein, tout de même. Est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise idée? Dites tout ce que vous en pensez au 32-16. On parlera de cette polémique par rapport à la sortie pour des prisonniers avec visite et pique-nique au château de Versailles. Ça doit être le mois prochain. On ne s'est pas fait encore quand même. Est-ce que ça vous choque, voilà, ce pique-nique au château de Versailles pour des prisonniers? Et puis enfin, 7200 restaurants ont fermé en 2023. C'est 44% de hausse par rapport à 2022. Est-ce qu'il y a trop de restaurants en France? Est-ce qu'il faut limiter l'installation des restaurants? On en parle avec vous à 14h.
Allez, 32-16 pour réagir avec Estelle, qui est là aujourd'hui, Benjamin Lamar, Fred Hermel, Juliette Briens, Rémi Barré.
Exactement.
Quelle équipe.
Bonne émission.